Le magazine des sports avec du football. Pour commencer, Mickaël Duneski, il faut dire qu'il y a eu une pluie de buts à l'occasion de cette 24e journée de Ligue 1.
Et ouais, les clubs du championnat de France qui ont gardé un rythme solide, donc un total de 33 réalisations et des cartons tout au long du week-end. Il y avait eu le 3-0 de Monaco sur Reims, le 4-3 du Havre à Lens, la victoire 3-1 de Nice à Saint-Etienne ou encore le succès du PSG sur Lille, 4-1. Alors aujourd'hui, Rennes a fait parler la poudre sur le terrain de Montpellier, un succès des Rennais 4-0 qui leur permet de se rapprocher de la première partie du classement, désormais à la 11e place. 4-0 encore, cette fois en faveur de Toulouse sur la pelouse d'Angers. Et puis en match de clôture, malheureusement pour les Nantais, l'OM s'est imposé face aux Canaries 2-0. Nantes a tenté de résister jusqu'à ce que les Marseillais, deuxième de la Ligue 1, on le rappelle, finissent par trouver la faille à la 73e minute avec Guiri et à la 77e avec Greenwood. Le défi était de taille et à l'arrivée, ce sont une nouvelle fois des regrets pour le coach des Nantais, Antoine Comboiré.
C'est de la déception parce que on était venu avec un plan bien précis, les empêcher de jouer, les faire douter et se créer des situations. C'est ce qu'on a fait pendant 1h10 à peu près. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est le match des occasions gâchées. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Le haut niveau, il faut être réaliste, il faut être efficace, il faut être tueur. Et on a manqué d'agressivité et de justesse technique devant le but pour pouvoir ouvrir le score parce qu'on méritait. Puis après, bien sûr, une fois que Marseille a ouvert le score, ça devenait plus compliqué pour nous, quoi. Le grand regret, on n'a pas été efficace dans nos temps forts, puis on s'est fait punir.
Encore des résultats aujourd'hui. Lyon qui l'a emporté pour sa part sur le fil contre Brest, 2-1 avec un doublé de Lacazette. Et malgré le coup de chaud de son coach, Paulo Fonseca exclu en fin de rencontre pour une altercation avec l'arbitre. Après ce craquage, il risque une lourde suspension. Enfin, Strasbourg l'a emporté à Auxerre, cette fois sur la plus petite des marques, 1-0. Alors à l'arrivée, le PSG, qui se prépare déjà pour Liverpool, se rapproche sûrement du titre de champion de France avec aucune défaite en Ligue 1 cette saison. 13 points d'avance sur l'OM. Nice est 3e, suivi de Monaco et Lille. Lyon a réussi à se positionner à la 7e place en bas de tableau. La lutte fait rage. Montpellier, lanterne rouge, mais poire au maintien avec 4 points de retard sur Saint-Etienne, toujours dans le dur à la 17e place, alors que le Havre tente de remonter la pente à la 16e position. Reims est 15e et Nantes donc s'accroche à sa 14e place à 4 points de la zone rouge. On est désormais à 10 journées de la fin du championnat.
Et faisons maintenant un petit tour, Mickaël, sur les autres pelouses européennes.
En Angleterre, on jouait le 5e tour de la Cup. Liverpool, futur adversaire de Paris, n'est plus de la partie et a donc gagné un peu de repos avant la grande affiche de la semaine en Champions League, tout comme Arsenal d'ailleurs, qui va mettre le cap sur Eindhoven. On signalera la qualification de Manchester City sur Plymouth, équipe de 2e division, 3-1. Manchester United a été éliminé aux tirs au but par Fulham. Newcastle aussi a été sorti par Brighton, 2-1 dans les prolongations. Direction l'Espagne où le Real Madrid est tombé ce week-end sur le terrain du Betis Séville. Défaite 2-1. L'Atlético de Madrid l'a lui emporté sur le terrain de l'Atlético Bilbao 1-0. Les deux clubs madrilènes qui connaissent des fortunes diverses avant de croiser le fer dans les joutes européennes. Le Barça en tête de la Liga a de son côté dominé la Real Sociedad 4-0. Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga allemande, a battu pour sa part Stuttgart 3-1 avec un but de Kingsley Coman, avant d'affronter le Bayer Leverkusen qui a, lui, surclassé Francfort dans une affiche entre le 2e et le 3e du championnat allemand, 4-1. Quant au Borussia Dortmund, qui sera opposé à Lille, il a dominé le club de St. Pauli 2-0. Enfin, sur les pelouses italiennes, le duel en tête du Calcio s'est conclu sur un nul entre l'Inter Milan, leader, et Naples, 2e, un but partout entre les deux formations. Enfin, la Lazio de Rome s'est imposée sur le Milan AC 2-1.
Bon, et si on parlait rugby maintenant, Mickaël, on va parler de la dernière affiche de la 18e journée de Top 14 ce matin et Bayonne qui s'est imposé sur Clermont.
Oui, l'aviron bayonnais qui est sur une bonne dynamique, actuellement à la 4e place du championnat de France et qui s'est donc imposé sur les Auvergnats 31-18. Clermont qui reste pour sa part aux portes du top 6 à la 7e place. Ce week-end, le Stade français s'était un peu rassuré en battant La Rochelle 22-17. Le Stade toulousain s'était montré impitoyable contre le promu breton de Vannes, victoire 63-21. Les Lyonnais l'avaient emporté de peu contre Toulon, 27 à 20. Succès difficile également de Montpellier sur Castres, 21 à 17. Et puis l'Union Bordeaux-Bègles a décroché une victoire très importante contre Perpignan, l'UBB qui s'impose 29 à 17 à l'extérieur. Succès également hors de ses terres de la section paloise sur la pelouse du Racing 92, 47 à 29. Un point sur le championnat de France, une semaine avant de retrouver, vous le savez, les Bleus en Irlande pour la suite du tournoi Destination. Toulouse, même privée de ses internationaux, est en tête avec 5 points d'avance sur l'UBB. Toulon, 3e. Au pied du podium et à 10 points du RCT, on retrouve Bayonne, Castres puis Lyon. En bas de tableau, Perpignan est avant-dernier et Vannes, lanterne rouge.
Allez, le coup d'envoi maintenant de la saison de MotoGP. C'était le premier Grand Prix de la saison en Thaïlande. Victoire de Marc Marquez.
L'ancien champion du monde, désormais sur Ducati, qui a envoyé un message fort pour ce début de championnat. Succès sur la Sprint Race, pole position et victoire encore sur le Grand Prix. Il a devancé d'ailleurs son frère cadet, Alex Marquez. L'Italien Pecco Bagnaia a lui terminé en 3e position. Côté français, belle performance pour Juan Zarco. Le français a fini à la 7e place au guidon de sa Honda. Toujours en phase d'amélioration. L'autre français, Fabio Quartararo, a quant à lui terminé à la 15e place sur une Yamaha, également en chantier. Il prend tout de même un point. On écoute Fabio Quartararo.
On va pas s'inquiéter dès la première course. Les tests ne sont pas très bien passés ici. La course, on va dire, ce week-end n'était pas au top. Mais voilà, je pense qu'il faut voir un petit peu après quelques courses. Et essayer de voir ce qu'on peut faire sur les prochaines.
Le prochain Grand Prix de MotoGP, ce sera dans 2 semaines déjà. Cette fois-ci, ce sera en Argentine.
D'autres résultats à signaler, Michael.
Allez, du tennis avec Stefanos Tsitsipas qui a remporté la finale du tournoi de Dubaï. Il s'est imposé face à Félix Auger-Aliassime 6-3-6-3. Le Canadien avait sorti en demi-finale le Français Quentin Alice. En golf, sur le PGA Tour, Mathieu Pavon n'a pas tenu la cadence sur le classique de Palm Beach. Après avoir occupé le deuxième rang, il a terminé à la 42e place avec une dernière journée à 75, alors que l'autre Français engagé, Victor Pérez, est lui revenu en 18e position de ce tournoi remporté par l'Américain Joe Highsmith. On rappelle qu'en athlétisme, la superstar suédoise Armand Duplantis, ce week-end, a amélioré son record du monde du saut à la perche, et ce pour la 11e fois de sa carrière. Il a passé une barre à 6m27. C'était à l'occasion de la 10e édition du All-Star Perche à Clermont-Ferrand, en métropole. Le double champion olympique et double champion du monde en salle détient donc le record du monde depuis qu'il a détrôné Renaud Lavillenie, le Français organisateur de ce All-Star Perche qui avait franchi, on s'en souvient, les 6m16. C'était le 8 février 2020. Donc Armand Duplantis avait battu le record de Renaud Lavillenie.
D'accord, on va remettre tout ça à l'endroit.
Oui, voilà.
Je pense qu'on a à peu près compris le sens.
Armand Duplantis, saute le haut de monde.
Voilà, c'est ça, on va retenir ça. Une pause dans ce magazine des sports du lundi, on parlera football juste après avec la sélection de Nouvelle-Calédonie et son sélectionneur Johan Sidaner, à tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Une deuxième partie consacrée évidemment au sport en Calédonie. On va parler football. Léo Fichou avec le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie et responsable des sélections, c'est Johan Sidaner.
Johan Sidaner, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à quelques jours, quelques semaines du départ de ce grand événement, les demi-finales océaniennes de qualification à la Coupe du Monde. La dernière ligne droite, comment ça se passe? Comment on se prépare à quelques jours de l'événement?
Ben, on est forcément impatient parce qu'on l'attend déjà depuis quelques mois, depuis la qualification au mois de novembre. Donc impatient.
On connaît l'adversaire Tahiti en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, ce sera la Nouvelle-Zélande face aux Fidji. Tahiti, c'est un adversaire qu'ici, les joueurs, vous, le sélectionneur, connaissez bien. Comment on prépare cette rencontre face à une équipe comme celle-là?
Oui, on connaît bien. Et puis ils ont effectivement, ils ont un passé assez récent qui date de 2022 où ils ont joué effectivement cette demi-finale, cette expérience où déjà ils étaient en demi-finale, ils s'étaient inclinés que 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Donc il est bon de le rappeler quand même. Et voilà, c'est une équipe qui une sélection qui travaille bien depuis plusieurs années. La preuve en est.
L'adversaire, c'est un point important, mais il faut aussi penser à soi, à la préparation. On le disait, une préparation qui a été un peu tronquée, les championnats qui n'ont pas encore repris, des joueurs du coup qui doivent se préparer différemment. Quelle méthode a été mise en place pour garder les joueurs en forme?
Oui, ben c'est ça, Léo. Effectivement, on parle de méthode. On a essayé de réduire au maximum les inconnues parce qu'elles étaient nombreuses, elles sont nombreuses. C'est un défi constant. Et on a essayé de travailler avec le staff, avec les joueurs, afin de réduire les inconnus et d'être prêt le jour J.
Donc un groupe qui a été un peu élargi depuis quelques semaines, quelques mois pour travailler ensemble.
Oui, élargi, mais en même temps avec beaucoup de continuité par rapport à ce qu'on fait depuis 2023. Il y a quand même un groupe assez homogène, une ossature. Et par la force des choses, pour pouvoir se préparer et travailler dans des bonnes conditions, effectivement, on a donné la chance, on a permis à quelques garçons de travailler avec la sélection presque de manière quotidienne, en tout cas 3-4 fois par semaine. Donc on est très satisfait, on est très content, on a fait ce qu'on a pu. Comme je vous disais, Tahiti a un autre passé. Ils ont aussi d'autres conditions de préparation. Nous, on le fait avec la situation actuelle qui n'est pas idéale. Mais en tout cas, on a essayé de travailler de sorte à être prêt.
Un travail quotidien, donc ici, en Nouvelle-Calédonie, pour un groupe. Mais il faut le dire, voilà, le groupe est scindé en deux. Il y a aussi ceux qui évoluent en métropole, à l'étranger.
Oui, puisque rien n'est simple. ça fait partie là aussi de la méthode qui a été mise en place. Et pour l'instant, effectivement, ça tient. Et on s'en félicite, puisque tout le monde répond présent. La fédération met les choses en place de sorte à ce que, encore une fois, à réduire toutes les inconnues. Il y a une méthode qui nous donne satisfaction, mais après on sait que c'est le résultat qui nous donnera raison ou pas.
Justement, ce résultat, est-ce que tout est possible? Est-ce qu'on peut y croire à cette qualification?
Oui, on y croit, bien sûr qu'on y croit, sinon on ne s'y présenterait pas. On y croit parce que les garçons ont montré des choses incroyables sur les derniers matchs, parce que ici il y a du football plein les pieds, parce que ici les joueurs sont concernés, parce qu'on a fait ce qu'il fallait, parce que effectivement sur un match tout est possible, mais encore une fois on sait que Tahiti, de par les quelques éléments qu'on vient de donner, partent forcément un peu favoris.
Oui, partent favoris. On va rappeler la date, hein, c'est le vendredi 21 mars, la demi-finale face à Tahiti, et ensuite cette finale potentielle qui se jouera quelques jours après, le lundi. Quoi qu'il arrive, s'il y a une victoire face à Tahiti, ensuite, comment ça se passe? On en a déjà parlé, mais il y a soit la qualification directe en cas de victoire, soit un barrage qui se jouera après.
On sait, mais je vous avoue qu'on ne s'est pas beaucoup penché sur la question. On avait déjà assez d'occupations au quotidien, de sorte à réunir tout le monde et mettre les conditions qui nous permettent d'arriver sur ce match du vendredi 21 à Wellington dans les conditions qui vont nous permettre de performer. Donc on s'est vraiment attaché à ça, c'est pas de la langue de bois de dire qu'on joue les matchs les uns après les autres. Effectivement, on sait que s'il y a un résultat positif, on sait qu'il y a cette finale 3 jours après à Auckland, mais on ne sait pas beaucoup, même si encore une fois la fédération a fait ce qu'il fallait au cas où, mais en termes de vraiment sportivement, on s'est préparé pour Tahiti et ce match du vendredi.
Et justement, les matchs les uns après les autres, il y en a eu quelques-uns, il va encore y en avoir avant de partir, même en arrivant en Nouvelle-Zélande.
C'est ça, on s'est préparé avec les clubs du territoire. On a joué contre Tiga samedi, on joue contre l'AS Magenta samedi à Noumadélé. On aura une dernière opposition interne avant de monter dans l'avion le samedi 15. Et puis, arrivé sur place, on a programmé une opposition avec le club de Wellington.
Ça aussi, c'est quelque chose de différent par rapport à ce qui peut se faire, d'affronter des clubs locaux plutôt que de jouer contre d'autres sélections avant de préparer une échéance comme celle-là.
Oui, là aussi, on fait les choses un peu différemment, mais c'est pas forcément un choix, c'est plutôt une contrainte, mais on n'a pas l'impression de mal faire et on n'a pas l'impression de rabaisser et de faire des choses de manière négative. On est très positif par rapport à tout ça. Encore une fois, les joueurs répondent bien. On a un staff qui nous permet de travailler sereinement et avec l'idée d'être performant. Donc on a vraiment l'impression de mettre les conditions pour que les joueurs se sentent à l'aise. On a toujours au-dessus de nous l'épée de Damoclès et la peur de perdre des joueurs sur blessure. Mais pour l'instant, tout le monde répond, on a tout le monde qui donne satisfaction. Donc on est, à l'heure actuelle, on est dans les temps.
Et c'est ce qui fait aussi la force de cette sélection, que tout le monde joue le jeu, les clubs aussi qui viennent participer malgré l'arrêt des compétitions, qui n'ont toujours pas repris ou qui reprennent progressivement les entraînements, qui viennent affronter la sélection pour qu'elle puisse engranger du temps de jeu, de l'expérience.
Oui, je vous disais, des défis permanents, mais encore une fois, on n'a pas l'impression d'être laissé pour compte. On a vraiment l'impression de travailler avec cohérence depuis quelques semaines, quelques mois. On n'a que ça en tête. Les garçons ont montré dans leur investissement qu'ils étaient très concernés. On déplore vraiment aucune blessure, aucun fait négatif. Tous les voyants sont au vert, mais encore une fois, maintenant c'est le terrain qui décidera.
Il y a des anciens qui sont revenus prêter main forte, que vous avez rappelé pour cette préparation.
Des anciens, oui, il y a quelques joueurs, mais qui sont pas si anciens s'ils sont encore en sélection. Mais effectivement, qui avaient à un moment donné, qui étaient un peu sortis des radars pour différentes raisons. Mais encore une fois, c'est la sélection, c'est la Nouvelle-Calédonie, on essaye de réunir les plus grandes compétences. Et peu importe l'âge ou le passé, ce qui est important, c'est vraiment d'être là le jour J, de remettre à chaque fois constamment le jeu au centre des débats et de se remettre en question. Pour l'instant, encore une fois, les garçons sont prêts, il nous semble, même s'il reste encore une quinzaine de jours avant cette échéance.
Justement, je parlais des anciens, des plus expérimentés, parce qu'il y a aussi les jeunes qui poussent à la porte, qui sont là, qui sont qualifiés aussi pour la Coupe du Monde. Les U20, vous êtes responsables des sélections, donc c'est pour ça que je viens aussi aux plus jeunes. Mm-hmm. Qui, dans quelques mois, quelques années, vont venir aussi dans cette sélection.
C'est ça, c'est un cercle, à mon avis, c'est un cercle vertueux qu'on essaye d'installer. On essaye de travailler sur et de laisser un héritage sur plusieurs années. Là, effectivement, à court terme, c'est ce match dans 15 jours qui fait office de grand rendez-vous et qui pourrait être un exploit en cas de qualification. Et puis derrière, on sait qu'on travaille aussi très très bien avec les plus jeunes, les U20 comme les U17.
Merci beaucoup, Johan Sidener, pour ces quelques minutes. Et on suivra forcément avec attention cette demi-finale de qualification à la Coupe du Monde. On rappelle la date face à Tahiti, ce sera le vendredi 21 mars en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Encore une toute petite question. Si la Calédonie bat Tahiti dans ce match, cette demi-finale, est-ce que ça veut dire que la Calédonie est qualifiée pour la suite des qualifications? C'est bien ça, on n'est pas obligé de gagner la finale pour l'aventure.
Exactement, on a cette place et cette chance d'aller au barrage intercontinentaux.
Voilà, donc cette victoire et ce match est effectivement très important pour la suite de l'aventure de la sélection calédonienne dans cette phase de préparation à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Johan Sidener. Allez, on va revenir sur le week-end sportif sur le territoire. Michael Juneski, et notamment une grande semaine pour le squash. C'était l'Open International qui s'est conclu ce samedi à la salle Picou qui fêtait ses 40 ans.
Exactement, une dernière après-midi de spectacle. Une victoire en finale d'Auguste Dussourd face à Baptiste Mazzotti. 3-1, les deux métropolitains de l'équipe de France faisaient partie des 4 invités professionnel venu à cette occasion pour assurer de belles prestations devant un public venu nombreux. Une émotion toute particulière pour le vainqueur qui était un proche, eh bien d'Enzo Corigliano, le joueur calédonien disparu tragiquement en 2020. On écoute Auguste Dussourd.
Que du plaisir, on avait rencontré quelques Calédoniens il y a plus d'un an à Nouméa, ils étaient venus nous supporter pour les mondes par équipe et on avait super bien accroché avec eux. Ils nous avaient bien super bien reçus, ils nous avaient invités, machin, on avait partagé des bons moments avec eux et c'était une belle expérience. Et donc avoir cette occasion de revenir ici, bah, c'était un plaisir. J'ai un super ami qui est parti il y a 4 ans maintenant et du coup revenir sur ces terres, ça me faisait plus que plaisir. Et donc voilà, on a été reçus comme des rois et vraiment que du bonheur et bah, j'espère qu'on reviendra.
Un petit mot à propos de cette finale
Le but, c'est de faire profiter les gens ici. Ils n'ont pas l'habitude de voir du squash professionnel. Donc l'objectif numéro un, c'est de faire plaisir aux gens. Il n'y a pas vraiment d'objectif sportif sur une finale comme ça. Mais pour aujourd'hui, c'était vraiment que les gens prennent du plaisir et éviter de se blesser dans ces conditions qui sont quand même difficiles.
Voilà, on aura eu droit à de belles leçons de squash, du beau spectacle, hein, avec des pros qui ont fait étalage de tout leur talent pour ravir le public. Laurent Vendée est le président de la section squash de l'Olympique de Nouméa, organisateur du tournoi.
C'est un bel événement qui fédère la communauté squash. C'est un événement, comme tu le dis, qui a permis de voir ce que c'est que le haut niveau international. Avec des matchs tous passionnants, de l'engagement, il y avait une belle communauté, c'était super. C'est une belle semaine de sport, c'est une belle semaine de squash. Dès qu'on va développer une vitrine pour le sport, ça va attirer les jeunes et ils vont se sentir motivés. Donc c'est vrai que ces gros tournois-là, ça permet aux jeunes de se montrer, ça permet aux jeunes de les inciter à rentrer dans les tournois et ces gros tournois-là, et effectivement de progresser, d'atteindre le haut de la pyramide.
C'est l'Olympique de Nouméa. Voilà, les passionnés de squash qui ont dû mettre la main à la poche pour pouvoir faire en sorte que cette belle fête du squash ici puisse se tenir.
Ben c'est sûr que faire ce pari-là et prendre ce pari-là il y a un mois et demi, eh bien c'est faire le pari que dans quelques semaines, les collectivités vont nous suivre en matière de subventions. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nos recettes, c'est 30% de fonds propres, 15 et 15 entre ligues et puis les rentrées d'argent. Et dans notre budget, il y a 20% de subventions des collectivités dont on n'est pas sûr d'avoir. Donc si on les a, on équilibrera nos comptes. Si on les a pas, ben on se mettra en risque financièrement. Et quand on a évoqué le sujet de la pérennisation de cet événement-là, il ne pourra de toute façon pas se faire dans un cadre économique non rétabli.
Voilà Laurent Vendée, organisateur donc de cet Open international de squash de l'Olympique de Nouméa dans le cadre des 40 ans de la salle Picot. Et puis je rappelle que le Calédonien Nicolas Masnet, notre meilleur représentant dans ce tournoi, s'est hissé jusqu'en petite finale où il s'est incliné face à la Malaisienne Siva Subramaniam, 7e joueuse mondiale.
Et je suis sûr que vous avez encore d'autres résultats à signaler.
Allez, en triathlon, le trophée Ligue Multi-Activité de la Ligue, hein, on signalera la victoire de Mathieu Zalamacha devant Thomas Prono et Gauthier Lezegretin. Les 41 participants s'affrontaient sur 3 épreuves, 750 mètres de natation, 15 km de vélo, 5 km de course à pied. Mélanie Allier a terminé meilleure féminine. Du tennis de table et la coupe d'ouverture Raymond Sens organisée par le club du Mont d'Or aura vu la victoire de Jérémy Day de l'Olympique devant Olivier Clouet et Raphaël Rodriguez. Un trail samedi soir, la course à la Dorade, ça se passait à Dimbéa-sur-Mer. 77 personnes étaient inscrites dans cette épreuve de challenge organisation. C'est Simon Robin qui a remporté la course phare de 10 km. En force athlétique, la première compétition de l'année qui se déroulait à Dimbéa, la coupe Jean-Claude de colle. On signalera notamment la victoire d'Axel Raymond au classement Open avec un nouveau record personnel au développé couché. Et puis, hors du territoire, hein, parmi nos nombreux représentants qui brillent, évidemment, une belle performance pour un jeune karatéka, Tommy Barraud. Il a remporté ce week-end la Coupe de France Chito-Ryu à Paris. Il s'est imposé dans la catégorie des juniors de moins de 60 kilos.
Toujours complet dans ce magazine des sports du lundi. Merci, Mickaël, et merci de votre attention à tous. C'est la fin de cette édition. Le prochain rendez-vous d'info sur Radio Rythme Bleu, c'est évidemment 13h pour le rappel des principaux titres de l'actualité.